grand dialogue
Sigikafoba
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiro.
Halou de Maoni.
Chenibiri. Sigikafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 12 décembre 2014. Bonsoir et bienvenue à cette émission. Nous sommes en fin de semaine et comme vous le savez, les élus de la nation réfléchissent sur l'actualité de la semaine. Et cette semaine, nous avons retenu trois thèmes. La libération de Serge Lazarevitch, le dernier Français retenu en otage dans le Sahel et également la 19e édition de l'espace d'interpellation démocratique au Mali. Et en dernier point, nous avons le virus Ebola qui continue de faire parler de lui. Alors pour cela, nous aurons deux députés, un de la majorité et un évidemment de l'opposition. Boubacar Sissoko, élu à Kenyeba, et Alkaïdi Mahamadou Touré, élu à Diré. Je suis Famoussa Sidibé et Sekou Mbo est à la technique.
Studio Tamani.
Si la libération de Serge Lazarevitch, le dernier Français retenu dans le Sahel, a fait quelque peu soulager les observateurs le 9 décembre dernier au Mali, les conditions par contre de cette libération continuent de faire débat. Alors aujourd'hui, comment avez-vous accueilli cette libération de Serge Lazarevitch à l'Assemblée? Je m'adresse là à Monsieur Sissoko, élu à Kenyeba. Boubacar Sissoko.
Merci M. Sidibé de m'avoir donné la parole. Je profite de cet instant pour d'abord saluer, remercier toute l'équipe de Studio Tamani, tous les auditeurs qui se sont donné le temps de nous écouter. Par rapport à la question précise à la libération de Serge Lazare, j'avoue que nous ne sommes pas au parfum même des négociations. Des négociations qui aboutissent au truc d'un, mais je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que ça réconforte les relations bilatérales diplomatiques entre notre pays et ça contribue beaucoup à l'avancée des négociations. Mmh. Vous savez, on réfléchit quand on a les destinées d'un pays. Souvent, il y a des décisions importantes qu'il faut prendre, même si elles semblent souvent impopulaires. Pourvu que ça aille dans l'intérêt de toute la nation. Ah. Je pense qu'ici, c'est le cas. C'est un Français. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais qu'on retienne également que la France également a consenti vraiment beaucoup de sacrifices pour la libération de notre pays.
Ça, c'est la voix de la majorité. Vous êtes élu du RPM. Alors, nous allons du côté de l'opposition à l'URD. Qu'est-ce que vous pensez de cette libération?
Merci M. Sidibé. Et je m'associe à la voix de mon ami pour saluer le studio Tamani pour tout le travail qu'il fait. Et saluer aussi tous les auditeurs qui nous écoutent en cet instant. Bon, moi je dis que quand on libère quelqu'un qui a été injustement arrêté, on ne peut que se réjouir. Mais dire qu'un Malien peut se réjouir de la libération de Serge Lazarevitch, je crois que même si on est de la majorité, c'est quand même trop dire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un échange avec un prisonnier qui lui a été son ravisseur et qui froidement, je vous dis, a fait évader des prisonniers de la prison civile et a tué un garde de cette prison. Je crois que maintenant, il n'y a plus... C'est-à-dire, le voile est levé, on comprend bien ce qui se passe. D'abord, quel enseignement on tire de ça? On comprend maintenant que le MNLA et le djihadisme, c'est la même chose. Ça, c'est un. De deux, la France n'est venue ici au Mali que pour libérer ses otages. La France peut se réjouir, mais nous ne pouvons pas nous réjouir parce que la justice a été violée. Je crois en ce moment, si l'État, pour des raisons d'État, il n'y a pas une raison d'État plus que les nationaux, mais les autres défendent leurs nationaux, certains se plaisent à libérer des criminels qui ont tué leurs nationaux pour dire que c'est des raisons d'État. Il faut dire simplement que vous voulez sauvegarder votre pouvoir. Et je crois qu'on ne sauvegarde pas son pouvoir en naissant à la traîne tous ces nationaux. Mais ça, c'est clair. Il y a pas, ça, c'est la
Alors,
vérité.
Monsieur Sissoko, est-ce que le RPM, à travers ces libérations, il y en a 4 au total. L'information a été confirmée par le ministre de la Justice, Mohamed Ali Batili. Est-ce que vous pensez que le prisonnier Wassouden, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui a tué lors de son évasion le 16 juin dernier, un gardien de la prison centrale, est-ce que vous pensez que cette libération peut être justifiée aujourd'hui?
Vraiment, je m'incline d'abord devant la mémoire du garde tué par Wassouden. C'est regrettable. Mais je vous dis que quand on a la destinée d'un pays, quand il faut décider de l'avenir d'un pays, de la stabilité d'un pays, on est souvent amené à prendre des décisions qui peuvent peut-être sembler impopulaires aux yeux de ceux qui sont loin de la décision, de l'instance décisionnelle. Mais je dis être responsable, c'est pouvoir décider en faveur vraiment des intérêts de la nation.
Donc vous pensez qu'il serait juste d'avoir...
C'est vrai, le garde de prison qui a été tué, c'est national. Mais du lieutenant Daniel Boiteux jusqu'au dernier soldat, une dizaine de l'armée française.
Donc vous considérez que les prisonniers sont des prisonniers français?
De
l'armée française?
Non, pas de l'armée française. L'autre, c'est celui qui a été libéré, la nationalité française.
Vu qu'on fait une relation aujourd'hui entre l'intervention française et la libération de ces terroristes, donc pensez-vous que ces prisonniers appartiennent à la
française? Quand je vais coopérer avec toi, je suis obligé de prendre et tes préoccupations et les miennes. Si je m'arrête à mes seules préoccupations, il est sûr que les relations ne vont pas durer. Donc je souscris cette situation, cette action dans ce sens-là. C'est tout simplement vraiment pour raison d'État et pour la stabilité du pays. Je n'ai pas de commentaire parce que je vous dis encore, nous sommes très loin de la phase de négociation. Nous n'avons pas été associés à la négociation. Nous ne sommes pas au parfum vraiment des secrets qui ont commandé à aboutir à des situations comme ça.
Mais libéré pour raison d'État à l'URD, est-ce que vous y croyez?
Moi, je ne crois rien. Je crois simplement que le pouvoir veut sauvegarder uniquement son pouvoir et tout ce qui lui vient par la tête. Parce que la France, c'est un dictat. Si la France dit à un président africain de faire quelque chose, il le fait parce que c'est la France qui stabilise les régimes africains.
Est-ce que si vous étiez au pouvoir, vous auriez pu faire autrement?
Moi, j'aurais pu faire autrement. Je ferais juger Wassouden et je vais le gracier. Ça, je peux le faire. Parce que ça, au moins, il y a eu justice. On sait quand même que l'âme malienne qui a été tuée froidement, sauvagement, je crois qu'au moins, ça, je peux comprendre ça. Mais je ne comprendrai jamais qu'on monnaie des âmes de maliennes comme si elles n'étaient absolument rien contre un Français. Un Français, l'âme française ne vaut pas mieux qu'une âme noire. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus.
Alors, est-ce que au RPM, vous comprenez cette indignation des différentes organisations de défense des droits de l'homme face à cette libération?
D'abord, M. Sidibé, vraiment, je regrette. Mais vous voyez, il n'a jamais été officiellement dit que la libération a été monnayée en échange.
Le ministre de la Justice, Mohamed Ali Batili, a confirmé cette information sur les médias occidentaux.
De toute façon, nous, à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas eu une réaction officielle pour dire voilà, c'est tel type qui a été tel type de négociation. Il nous a été imposé de donner Wassouden et de libérer en contrepartie de
peut-on
de,
imposer de, quelque de, chose à un État
d'abord,
souverain
d'abord, et souvenons-nous comment nous avons eu le Mali était sous colonisation. Nous étions sous colonisation. Si les chefs d'État africains, si les Africains ne pouvaient pas dire non à l'Occident, serions-nous indépendants aujourd'hui?
Vous revenez en arrière là?
Non, je reviens en arrière parce que
le Mali est souverain.
On vient de dire ici, le collègue.
Nous ne sommes même pas indépendants.
Il vient de dire que les pouvoirs, les présidents africains ne peuvent pas dire non au pouvoir français.
Ils ne sont pas indépendants.
Si ce n'était pas le cas, nous sommes indépendants.
Nous ne sommes pas indépendants.
En 1960, avant le 22 septembre 1960, le Mali était colonisé. Il a fallu notre détermination, notre bravoure. Nous avons pris les destinées à main, on a eu le courage de dire non à la France et vraiment d'être souverain, de prendre notre destinée.
Mais aujourd'hui,
c'est la même chose.
Aujourd'hui, c'est le Mali qu'on
continue à être dirigé.
Le Mali est souverain, le Mali est un État souverain. Aujourd'hui, nous jouissons de toute notre indépendance. Mais seulement, nous avons des rapports. Nous avons des rapports de coopération sur toutes les formes qu'il faut sauvegarder.
D'accord. Alors, Al-Qaïdi, vous, au niveau de l'URD, qu'est-ce que vous pensez de cette indignation des différentes organisations de défense des droits de l'homme face à ces différentes libérations?
C'est absolument logique. C'est absolument logique parce que nous avons fini par comprendre que, comme lui l'a dit, que nous sommes indépendants, nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas indépendants. Parce que nous ne pouvons même pas défendre nos nationaux. Et pendant que les autres, là, ils font la joie, ils vont aller à l'aéroport pour accueillir un prisonnier en échange de quelqu'un qui a tué un Malien et qui avait tué des Maliens. Parce qu'un djihadiste, on ne sait pas ce qu'ils n'ont pas fait. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, on dit qu'on est indépendant, mais moi, de mon point de vue, nous ne sommes pas indépendants. Parce que jusqu'à présent, la France fait en Afrique ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut. Et le régime qui n'est pas d'accord sera déstabilisé. Et en ce moment, le pouvoir qui veut rester, eh ben, il ne fera que se plier au diktat de la France. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc je suis entièrement d'accord avec les organisations de défense des droits de l'homme. Parce que la démocratie, ce n'est pas comme ça. La démocratie, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas qu'on veut, on fait. Il faut, on fait de la démocratie pour ses nationaux d'abord. Nous sommes dans notre pays. Est-ce que nous pouvons comprendre? Qu'est-ce que nous allons comprendre au nom de quelle négociation, au nom de quelle paix? Parce que ce qui est sûr, la conclusion est que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche au régime passé? Quoi? Qu'on nous dise tout ce que ce régime a fait, c'est la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui. Qu'ils me disent ce qui a changé par rapport au régime passé qu'on a crié, on a monté sur tous les toits.
Alors, Boubacar Sissoko, vous êtes élu du RPM, vous êtes député élu à Kenyeba.
Oui.
Nous avons vu lors de cette libération, Serge Lazarevitch était détenu dans le nord du Mali, mais nous l'avons vu affiché aux côtés du président nigérien, alors que le Mali avait beaucoup plus à perdre que le Niger. Est-ce que vous comprenez cette sortie du président nigérien aux côtés de Serge Lazarevitch? Pensez-vous qu'il fallait renverser la tendance et cette libération pouvait se faire à Bamako?
Bon, comme je vous dis, je n'ai aucun élément d'appréciation par rapport à la procédure.
Pensez-vous que c'est logique?
Bon, c'est-à-dire, je vous dis, pour juger, il faut avoir tous les éléments d'appréciation. Nous sommes loin du champ de négociation. Mais d'abord, ce que je voudrais faire, je voudrais vraiment saluer et souhaiter la consolidation de notre démocratie qui a été chèrement acquise, je l'ai dit l'autre jour, à prix de sang. Qu'on comprenne qu'aujourd'hui, le Mali est indépendant. Le Mali est indépendant, le Mali est démocratique. C'est pourquoi lui et moi, nous sommes ici. En 1946 à 1950, on ne pouvait pas imaginer cette forme de démocratie et cette forme de liberté de presse, de liberté d'expression pour un noir ici. Donc, reconnaissons les progrès réalisés au cours de l'histoire.
Cela ne répond pas à ma question, M. Sissoko.
Cela, je vous dis, j'ai répondu à votre question. J'ai dit, je suis loin du champ de négociation. Je n'ai pas tous les éléments d'appréciation pour dire si c'est le président nigérien qui doit paraître aux côtés de Nigeria ou si c'est le président Ibeka qui doit paraître. Vraiment, je ne sais pas.
Alors, Al-Qaïdi Touré, vous êtes député de l'URD, élu à Diré. Le président nigérien s'est affiché avec l'otage libéré Serge Lazarevitch, l'otage français, le dernier retenu dans le Sahel, qui a été libéré donc le 9 décembre dernier. Pensez-vous que cette posture met le Mali plus à mal, car le Mali avait beaucoup plus à perdre que le Niger? Pensez-vous que c'est normal?
Mais c'est absolument logique, pourquoi pas? Parce que le président nigérien, lui, il se réjouit d'avoir libéré et un prisonnier qui était très important pour la France, pour consolider ses rapports avec la France. C'est tout. C'est tout, c'est bien et bien. Hein. C'est tous ces présidents-là. Le seul problème, c'est d'avoir des relations et de ne pas avoir maille avec la France. C'est tout. C'est la seule raison. Sinon, moi je crois que ça soit le président nigérien, que ce soit le président malien, mais je crois que les Maliens ont droit à l'information. Parce que si c'est ce qu'on vient dire ici, avec tout le respect que je lui dois, qu'il n'a pas la bonne information. Maintenant, qu'ils nous disent, le gars, il s'est évadé. Mais est-ce qu'il s'est évadé? Il ne s'est pas évadé. Quand il s'est évadé, on l'a ramené en prison. Et reconnaissons les choses telles qu'elles sont. Je vous jure que ce pays-là, autant que nous sommes, nous l'aimons. Et ils sont au pouvoir. Moi, je ne dis pas quelqu'un d'autre. Moi, personnellement, je ne suis pas jaloux du pouvoir. Jamais. Mais je veux que les gens, au moins, ils disent la vérité à la population. Parce que le ministre dont vous avez parlé, au lieu d'aller sur les médias internationaux, mais il a l'habitude pour des gens qui se sont querellés pour 1 hectare, 2 hectares, venir parler et faire toute la gymnastique.
Al-Kaïdi,
oui,
nous allons en pause.
Merci.
2 secondes et nous revenons autour de cette table.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Studio Tamani, nous sommes également présents sur notre site web www.studiotamani.org, sur notre page Facebook Studio Tamani et également sur Twitter. Alors nous débattons aujourd'hui de 3 thèmes qui ont marqué l'actualité. La libération de l'otage français, le dernier otage détenu dans le Sahel, Serge Lazarevitch, et de la 19e édition de l'espace d'interpellation démocratique au Mali. Et pour terminer, nous serons donc dans la troisième partie. Et nous débattrons du virus Ebola. Alors pour cela, nous avons aujourd'hui comme député de l'opposition Al-Kaïdi Mahamadou Touré, élu à Diré, et également Boubacar Sissoko, élu du RPM. Monsieur Sissoko est élu à Kenyeba. Alors cette deuxième partie donc est consacrée à la 19e édition de l'espace d'interpellation démocratique. Alors comme vous le savez, cette nouvelle 1e édition de l'espace d'interpellation démocratique a été marqué par 2 faits majeurs, les dossiers fonciers et la justice. Alors aujourd'hui, pensez-vous que cet espace est toujours efficace, Al-Kaïdi Touré?
Oui, c'est toujours efficace. Pourquoi? Parce qu'au moins, même si vous n'avez pas la solution à votre problème, le seul fait de venir publiquement l'exposer et que les autorités l'acceptent, c'est déjà une avancée. Parce que le problème est que souvent, tu n'as même pas où exposer ton problème. Si au moins il y a un espace où tu peux venir exposer tes problèmes, que tu aies raison, que tu aies tort, c'est toujours un exercice très démocratique. Et je vous jure qu'il y aura des résultats. Les résultats peut-être ne sont pas aussi visibles que ça, mais il y a des résultats. Parce que personne, aucun ministre ne veut être interpellé 2 fois sur un sujet. Ça, je vous le dis. Parce que les ministres, malgré tout ce que vous voyez là, ils aiment le pouvoir, mais ils n'aiment jamais être interpellés.
Alors, du côté de la majorité, Boubacar Sissoko, élu à Sikasso, élu du RPM.
À Kenyeba.
À Kenyeba, je m'excuse. Alors, pensez-vous que cet espace soit toujours efficace?
Vous savez, M. Sidibé, pour une fois, je suis sur la même longueur d'onde que mon ami Al-Kaïdi. en dehors des passions, d'abord, je me réjouis de son esprit d'ouverture pour avoir reconnu que la libération de Serge Lazare est vraiment une avancée pour la paix et pour l'image de la diplomatie, même s'il estime que ce n'est pas en faveur de mon pays. Maintenant, l'espace d'interpellation démocratique est la preuve vitale de notre démocratie. Et cet espace, en dehors de tout ce qu'il vient de dire, moi, je vois qu'il y a même des résultats visibles. Et au regard des conclusions cette année, les engagements pris par le Premier ministre qui prône une planification pour l'évaluation des résolutions issues de cet espace démocratique, je pense que c'est une première. D'ici le mois de juin, il a promis d'abord une évaluation trimestrielle, ensuite une évaluation semestrielle. Et il instruit désormais à chaque ministre de lui donner un plan d'exécution.
Qui?
Le Premier ministre. Il a demandé à tout le Premier ministre de lui faire parvenir un plan d'exécution des résolutions concernant son département. Donc moi je trouve que en dehors d'être un espace de refoulement pour les uns et les autres, c'est la preuve vitale de notre démocratie chèrement acquise.
Alors, avant d'en venir à la justice, nous allons clore ce dossier du foncier. Pensez-vous aujourd'hui que l'État malien doit adopter aujourd'hui une nouvelle politique foncière pour venir à bout des différents dossiers? Al-Kaïdi, vous, à l'opposition, qu'est-ce que vous en pensez?
Mais quelle réforme on va faire? La réforme est simple. Tout ce que vous êtes en train d'entendre là, c'est du bruit inutile. Il n'y a pas ici au Mali, là, tous les trafiquants là que vous voyez, les trafiquants fonciers là, Ce n'est pas des gens qui sont venus du machin, c'est l'administration et les gros, et ceux qui sont au pouvoir là au sommet.
L'administration, elle est composée de cadres de l'opposition et des cadres de la majorité.
Je suis en train de te le dire, mais c'est toujours les cadres qui sont au pouvoir. C'est eux. Donc on connaît le problème, on n'a pas besoin de faire encore une fois tout ce tam-tam-là. Mais c'est ce que j'ai toujours dit aux gens. J'ai dit que le droit, il ne fait pas du bruit. Le droit, il pose des actes. Et de ces actes jaillissent des boulevards et des buildings. C'est ça le droit. Chaque fois que vous entendez le droit faire du bruit, il n'y a pas la vérité derrière. Pour réformer l'immobilier, là, on n'a pas besoin de tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Et réformer l'immobilier, c'est très simple. C'est absolument simple. Ça ne demande absolument rien.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Mais il faudrait simplement respecter le code. C'est tout.
Le code domanial.
Le code domanial et foncier, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Mais c'est le code qui ne s'applique qu'aux pauvres. Il ne s'applique qu'aux pauvres, il ne s'applique pas aux riches. Hein. Et on n'a pas besoin, pour réformer le foncier, de venir arrêter toutes les professions qui sont liées au foncier. Est-ce que ça vous pouvez me dire que ça, c'est une réforme? Une réforme, c'est venir dire, oh, non, on arrête tout ce que vous avez fait depuis des années. Mais en ce moment, je crois que ceux-là qui sont en train aujourd'hui de parler n'ont qu'à quitter dans leur maison parce que les titres qu'ils ont, ce n'est pas eux qui l'ont délivré à eux-mêmes.
Alors, à la majorité, pensez-vous qu'il faille aujourd'hui réformer le foncier au Mali?
Ignorer le problème foncier aujourd'hui au Mali, je suis dit, c'est faire preuve de cécité intellectuelle. Mais il faut appréhender le problème dans toute sa grandeur et surtout dans son historique. Vous savez, le foncier, le code dont il parle, j'ajouterai au respect du code domanial, mais surtout sa réactualisation au problème actuel, au problème qui se pose actuellement aux citoyens maliens. Il y a le droit coutumier qui n'est pas dans le code. Il y a le droit coutumier. Nous avons ce qu'on a hérité du colon. Il faut faire une réconciliation des deux pour aboutir à quelque chose de potable. Et là, je salue beaucoup les efforts fournis par les pouvoirs en place. On a organisé les états généraux du foncier, cercle par cercle, région par région. Ensuite, au niveau national, qui ont fait sortir des recommandations. Et à l'heure où on vous parle d'hier à aujourd'hui, il y a un séminaire qui est en train de se tenir sur ce même thème. Donc, il y a la volonté de résoudre vraiment définitivement ce problème. Il y a la volonté des pouvoirs publics en place pour résoudre ce problème. Et je le répète encore une fois, ignorer ce problème-là aujourd'hui, c'est faire preuve de cécité intellectuelle. C'est vraiment un problème récurrent qui se pose. On ne peut pas le résoudre par le cœur, on ne peut pas le résoudre par la passion. Il faut faire une réflexion et il faut faire une réconciliation entre le traditionnel et ce qui est dans le droit qu'ils ont appris à l'école.
Alors, deuxième fait majeur de cette...
Je peux juste répondre un peu parce qu'il a dit de contre-vérité, il faut que je rectifie.
Allez-y, Al-Kaïdi.
Tout ce qu'il est en train de dire, moi je n'ai
Vous
pas
êtes
dit...
de l'URD.
D'abord, les droits coutumiers sont... La purge des droits coutumiers, c'est prévu dans le code. Vous savez, on viole le code. On viole le code, c'est tout. Je n'ai jamais dit ici que je vais ignorer le problème foncier. Mais j'ai dit que régler le problème du foncier ne veut pas dire tout ce temps qu'on en fait parce qu'on n'a rien résolu. Qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils doivent. Ils n'ont rien résolu. Ils n'ont rien résolu. Parce qu'il y a des regarde par exemple, je te dis purement et simplement un problème qu'on peut résoudre systématiquement. Toutes les doubles attributions que vous voyez, c'est des géomètres qui sont les techniciens qui doivent normalement dire la vérité, c'est eux qui vont aller mentir en disant que cette parcelle-là est libre et c'est eux qui intuitent et les maires et le gouverneur en heure.
Est-ce que vous le dites assez à l'Assemblée?
Mais à l'Assemblée, là, avec ces gens-là, on va pouvoir dire quoi? Tout est bon chez eux. Il n'y a rien de mauvais au
Et les réformes en cours
Mais moi, je ne vois pas les réformes qu'ils sont en train de dire. C'est lui qui le dit ici, ça m'a tellement étonné, parce que moi, il oublie quand même qu'au-delà du fait que moi, je suis un député quand même, je suis un notaire. Il ne peut pas me parler de droit foncier quand même.
Alors nous allons entamer la deuxième partie.
Non, avec votre permission,
nous allons passer à la deuxième partie.
Avec votre permission, s'il vous plaît.
Nous sommes toujours dans l'espace des verbulations démocratiques.
Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Laisse-le parler. Alors, juste deux mots, et nous allons passer à la deuxième partie.
Voilà, juste deux mots. D'abord, je n'ai pas dit qu'il ignore le truc, mais je suis très réconforté. Quand c'est l'opposition qui décrit aujourd'hui le système qu'ils ont appliqué, qu'ils ont pratiqué, nous sommes au pouvoir il y a un an. Ce qui est décrié n'a pas commencé à partir de janvier 2020.
Vous remontez jusqu'à à l'époque de du président.
Justement, à l'époque de leur gestion. À l'époque
laquelle?
De leur gestion.
À quelle époque? L'actuelle majorité et l'actuelle opposition étaient dans le même gouvernement.
De toute façon, moi je ne suis vraiment pas historien. Mais je sais quand même que j'ai hérité du pouvoir et c'est à leur époque où vraiment il y a eu ce grand problème.
Mais si vous nous situez un peu cette époque.
Bon, je ne sais pas comment ça va.
Nous allons passer à la deuxième partie de cet espace d'interpellation démocratique, un autre sujet. C'est donc la justice. Pensez-vous que la justice malienne a le pouvoir et les moyens aujourd'hui de traiter tous les dossiers, notamment ceux du foncier qui lui sont adressés, Al-Kaïdi et Touré de l'opposition de l'URD?
Merci beaucoup, monsieur Sidibé. Et vous voyez, mon ami, malgré notre amitié, il sait qu'il y a des choses où il est obligé de faire le mea culpa. Parce que moi, je vous ai dit que je ne veux pas qu'ils parlent. Moi, je veux leur dire simplement une chose, qu'ils changent de stratégie, cette majorité au RPM. Que le RPM accepte qu'il a participé à ce qui s'est passé au Mali.
Quand?
Je vais vous donner seulement un exemple. Je vais vous décrire le président qui est au Mali aujourd'hui. Il a été ambassadeur en Côte d'Ivoire, ministre des Affaires étrangères, premier ministre d'Alpha Omar Konaré pendant 6 ans, président de l'Assemblée nationale. Là où ils disent le consensus là, président de l'Assemblée nationale et député, est-ce qu'on peut participer mieux au pouvoir? Donc je voudrais qu'ils changent de stratégie et qu'ils disent que nous pouvons lutter contre ce qui se passe aujourd'hui parce que nous connaissons, nous savons.
La justice malienne a-t-elle les moyens aujourd'hui?
J'ai dit la justice a les moyens si la justice se donne les moyens. Parce que moi je dis l'indépendance de la justice, quelle que soit l'indépendance de la justice, il faudrait que les juges là eux-mêmes changent. Et ce n'est pas tous les juges qui ne sont pas bons, mais que les juges changent. Parce que moi, je crois que tous les problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est parce que les problèmes n'ont pas été normalement gérés. Celui qui a raison, vous lui donnez raison. Le problème ne va pas se répéter. Mais le problème dans ce pays-là, c'est que celui qui est au pouvoir, il ne perd pas un dossier. Il ne perd pas un procès. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? On ne peut pas. Il faudrait absolument qu'on accepte de se soumettre aux lois. La loi est au-dessus de l'homme. C'est ce qu'il faut qu'on accepte, qu'on soit au pouvoir ou pas. Quand vous savez que vous n'avez pas raison, n'influencez pas. Mais malheureusement, ceux-là même qui sont aujourd'hui en train de décrier les pratiques de la justice, qui pousse la justice à ça? Qui intervient dans les dossiers? Malheureusement, c'est nous, députés, c'est les politiques qui interviennent dans les dossiers judiciaires.
Même l'opposition.
Mais je le reconnais. Moi, je le reconnais. Parce qu'il faut être franc avec soi-même. C'est nous-mêmes qui les poussons. Parce que si vous laissez le juge juger, mais je crois que si le juge faute, et que vous faites valoir, c'est-à-dire que vous jouez votre rôle de contrôle, et que ce juge-là, on le met devant le feu, on le finit. Mais je crois que personne ne va répéter. Mais on ne le laisse même pas faire. Et nous-mêmes, après, on va dire
vous
que c'est corrompu.
Voilà. Alors, à la majorité, pensez-vous que la justice malienne ait tous les moyens aujourd'hui de faire face à tous les dossiers qui lui sont confiés?
Bon, d'abord, moi, je voudrais réaffirmer ici que la majorité présidentielle a conscience de la séparation des pouvoirs. Et n'a nullement l'intention de s'immiscer dans les affaires du pouvoir judiciaire. Et je suis vraiment convaincu que la justice malienne, en tout cas sur les textes, a la possibilité, pourvu que les hommes qui l'animent soient à la hauteur et aient la volonté, n'est-ce pas, d'être les vrais acteurs pour faire l'équilibre entre vraiment les citoyens. J'ai confiance en la justice, je pense qu'ils en ont les moyens, que les hommes soient à la hauteur, que les hommes aient la conscience de leur profession.
Alors, nous allons observer juste 2 secondes de pause avant d'entamer la troisième et dernière partie de cette émission consacrée au virus Ebola.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Visitez également notre site web www.studiotamani.org. Alors, nous disons un grand merci à nos radios partenaires et aux différents correspondants. Ils sont 20 au total. Un grand merci à eux pour les journaux en langue. Alors, nous sommes donc à la troisième partie de cette émission consacrée au virus Ebola. Nous sommes avec deux députés, un de la majorité et un de l'opposition. Boubacar Cissoko est élu à Kenyeba, il est du RPM, et nous avons également Al-Kaïdi Mohamedou Touré, élu à Diré. Alors, cette troisième partie est consacrée au virus Ebola. Jusqu'alors, le Mali n'a enregistré que deux patients guéris de ce virus. Quel est votre avis sur l'état d'avancement des progrès enregistrés aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola, Al-Kaïdi Touré de l'URD?
Bon, je crois qu'aujourd'hui, si déjà d'autres cas ne se sont pas manifestés, ça veut dire que peut-être on est vers la sortie. On est au bout du tunnel. Et je le souhaite vivement pour ce pays. Parce qu'il y a tellement de crises dans ce pays que Ebola est vraiment venu tout perturber. Et Ebola n'a vraiment pas raison. Et je crois que nous devons lui montrer qu'elle n'a pas raison et que nous devrons tout faire ensemble. Ça, ce n'est pas un problème d'opposition de majorité, la mort, là. Ça, je crois que chacun cherche sa tête. Ça, il n'y a pas d'opposition ni de majorité là-dedans. Et que même ça, dans ça, ils veulent absolument nous faire consommer des choses que nous ne pouvons pas accepter.
Comme quoi?
Par exemple, c'est-à-dire, chaque fois qu'on dit que quelque chose que n'est pas bien, que si ce n'est pas bien, reconnaissez-le, améliorez-le. C'est tout. C'est très simple, ça. C'est-à-dire, le pouvoir, là. Vous savez, là, gouverner, là, ce n'est pas aussi difficile que l'on pense. Hein. Gouverner, c'est difficile simplement quand on ne veut pas dire la vérité. Quand on dit la vérité, il n'y a pas de... Quand on ne veut pas faire le partisan, le gouverner, c'est absolument facile. Mais c'est quand on veut concilier des problèmes partisans avec des problèmes d'intérêt général, c'est là où le problème se pose. Et je crois qu'aujourd'hui, qu'on ne dise pas encore qu'il y a des cas... Et que à chaque fois qu'il y a un problème, quand on explique, ils mettent. Bon, je crois qu'en ce moment, on va vaincre. Parce qu'en ce moment, là, il n'y a plus de problème. Mmh. C'est ce que je leur avais dit. Ils avaient dit qu'il y avait un dispositif. Il n'y en avait rien. C'est aujourd'hui qu'ils sont en train de mettre les dispositifs. Maintenant qu'ils ont mis les dispositifs. Vous croyez qu'un malade d'Ebola va venir à Bamako ici? Non, il ne viendra pas. Il s'arrêtera à la frontière.
Alors, vous partagez ce que vient de dire.
Vous savez, M. Sidibé, tout ce que je regrette. C'était la mauvaise volonté de mettre en application toutes les belles théories que l'opposition vient de développer. Ils en avaient la possibilité de mettre en application cette stratégie pour faire avancer notre pays. Mais malheureusement, c'est trop tard de le comprendre et je reconnais que gouverner est vraiment difficile. Ici, moi je salue surtout la discipline du peuple malien pour s'être vraiment assujetti aux règles d'hygiène édicté par le ministère en charge de la lutte contre cette maladie-là. Et c'est le lieu également de remercier vous de la presse, qui avez été d'un apport inestimable, vraiment, pour la réussite, pour avoir les résultats que nous avons aujourd'hui. C'est le lieu de remercier les autorités politiques, les autorités administratives, mais surtout les autorités sanitaires. Et heureux que le plan de sortie des crises de l'opposition ne soit pas suivi. Vous savez, si on avait fermé les frontières, ça allait pousser les gens à aller à rentrer dans la clandestinité.
L'opposition l'avait dit pour un moment.
Pour un moment de fermer les frontières. Malheureusement, les autorités en charge de la gestion ont été vigilants. Eux, parce que fermer les frontières, c'est pousser les gens à aller à rentrer clandestinement. Donc, à ne pas être contrôlés. Donc je salue ici le dispositif, vraiment les autorités sanitaires, les autorités politiques, mais surtout l'engagement personnel du président de la République, l'engagement du Premier ministre, et vous de la presse, les autorités administratives, politiques et sanitaires. Et je salue l'union sacrée autour de cette situation, c'est ce qui a amené ce résultat-là. Et je souhaite qu'on ne perde pas de vue vraiment la vigilance. Soyons encore beaucoup plus vigilants pour, en tout cas, que le pays soit vraiment déclaré vraiment propre par rapport à cette situation d'Ebola. Vraiment, je vous remercie.
Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord que le Mali a eu raison, les autorités actuelles ont eu raison de maintenir les frontières ouvertes?
Moi, j'ai dit, on n'a jamais demandé de fermer les frontières, comme il vient de le dire. Nous avons dit de fermer un mois les frontières parce que nous avons constaté avec eux, avec les agents qui étaient interrogés sur le terrain, qu'un dispositif n'était pas en place. Le temps simplement qu'ils fassent les rencontres avec les autorités guinéennes et que les autorités ensemble mettent les dispositifs pour permettre de contrôler. Parce que si vous voulez, vous voyez que vous contrôlez, c'est qu'il y a un dispositif de contrôle qui n'existait pas. Il faut qu'on soit clair. Maintenant, si vous n'avez pas fermé les frontières et que vous avez raison, vous croyez que nous avons du mal à ce que vous avez réussi pour des Maliens, pour que les Maliens ne meurent pas, nous, on va s'en rougir. Non, nous ne sommes pas comme vous qui voyez la vérité et vous refusez de la reconnaître. Nous, tout ce qui vient, qui soit bon pour ce pays-là, on est d'accord avec.
L'opposition
est d'accord avec, parce que l'opposition, c'est peut-être le pouvoir demain. C'est le pays. Tout ce qui nous unit aujourd'hui, c'est que nous avons un père commun, le Mali. En dehors de ça, chacun va aller chercher ses affaires. Hein. Donc, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Et je veux que ce soit la dernière fois encore qu'il me parle de nous. C'est nous tous qui avons mis ce pays là-dedans. Vous y avez participé plus que tout le monde parce que vous ne pouvez pas faire l'opposition. Nous, dites-nous au moins que nous avons le courage aujourd'hui de voir tous les avantages qui sont liés à la majorité, de refuser et de dire que là où vous avez fauté, là où ça n'a pas été bien, qu'on le dise. Mmh. Ça, c'est aussi important et je crois que si tu es un vrai démocrate, reconnais-le.
Le Mali fait-il ou doit-il faire partie des pays prioritaires pour l'expérimentation de vaccins aujourd'hui? Pensez-vous que le Mali est sur la liste des priorités de l'OMS à la majorité? Bouakar Sissoko.
Bon, d'abord, pour cette situation, je rectifie. Moi, je suis un homme de terrain. Je partage la plus grande partie de la frontière malienne avec la frontière.
C'est à Kenyeba.
Je suis de Kenyeba. Et c'est avant-hier seulement que je suis rentré de Kenyeba pour un reportage, pour un élément sur le virus, la situation de Ebola. À Kenyeba, mais surtout au Mali. Donc, j'ai écouté les populations à la base. Ça n'a jamais été la volonté de la population de fermer les frontières. Que ce soit clair. Que ce soit clair. Et nous, nous savons nous assumer. En tout cas, au RPM, nous savons nous assumer. Nous avons fait 13 ans à la conquête de la confiance du peuple. Si par le comportement de certains, ils ont perdu la confiance du peuple, qu'on s'en prenne à soi-même. Mmh. Et maintenant, par rapport sur la question, moi je pense que le moment la décision, je suis législatif, si le projet de loi est soumis à l'Assemblée, je saurais prendre, après étude minutieuse de la situation, je saurais prendre mes responsabilités. Mais pour le moment, je laisse cette étude technique, cette partie technique, vraiment au service technique chargé de la situation. Mmh. Voilà.
Mais le Mali doit-il aujourd'hui faire partie des pays prioritaires pour l'OMS? Juste un avis. Pour l'expérimentation de vaccins contre le virus.
Bon, je pense qu'il y a eu, des pays qui ont connu beaucoup plus de situations, beaucoup plus graves que notre situation. Mmh. Vraiment, comme je dis, je laisse l'appréciation au service technique.
Votre appréciation, Al-Kaïdi, à l'URD?
Pourquoi pas expérimenter un vaccin contre l'Ebola? Pourquoi, si on faisait ça au Mali, en quoi il y a le Mali là-dedans?
Pensez-vous que le Mali est assez soutenu?
Ben, pourquoi pas? Mais je crois qu'absolument, l'OMS est en train de faire des choses formidables. Et je crois que l'OMS sera appréciée. Parce que dans tous les cas, c'est des partenaires du Mali. Et l'OMS, techniquement, peut savoir si le Mali doit être priorisé ou pas. Mais dans tous les cas, si on le faisait, ça ne fait que... C'est une très bonne chose.
Alors, pensez-vous aujourd'hui qu'on doit améliorer le plateau sanitaire public au Mali?
Absolument. Absolument. Il faudrait que tous les centres communautaires soient dotés. C'est-à-dire qu'il faut toujours prévenir. Il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que c'est ce que j'ai dit. Si au moment où la Guinée avait été attaquée par cette maladie, les Maliens avaient pris soin tout simplement de commencer à former, de commencer à payer les équipements. Aujourd'hui, je crois qu'on aurait gagné beaucoup plus de temps. C'est ce qui n'a pas été fait. Parce que c'est à côté, il faudrait toujours prévoir que ce n'est pas venir. Parce que gouverner, c'est prévenir. Voilà, donc je crois que absolument, je suis entièrement d'accord.
Alors, pensez-vous qu'un jour le Mali parviendra à améliorer davantage? Est-ce que nous avons, le Mali a les moyens aujourd'hui d'améliorer le plateau sanitaire mieux que ce qui se passe actuellement?
Bon, d'abord, moi je salue l'esprit d'anticipation des autorités maliennes par rapport à cette situation. Je le dis, depuis le mois de mars, bien avant l'apparition même de la situation au Mali, depuis le mois de mars, dès le premier cas Ebola en Guinée, les autorités sanitaires, politiques et administratives de Kenyeba, sous la présidence du ministère de la Santé, a eu l'esprit d'anticipation avec l'accompagnement des partenaires miniers. Tout le monde l'a vu à la télé. Somilo a déboursé 20 millions pour former les agents sanitaires du cercle en prévision de la prise en charge de cette situation.
Somilo, une mine d'exploitation.
Une mine d'exploitation. Donc dire aujourd'hui que nous avons manqué d'esprit d'anticipation, je ne serais pas d'accord. Maintenant, par rapport à l'amélioration du plateau, moi je ne dirais même pas public, mais public et privé. Public et privé, vraiment pour prévenir et faciliter la prise en charge, je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas, mais pour d'autres situations qui peuvent éventuellement se présenter aux autorités sanitaires. Vraiment une amélioration. Mais vous savez, le capital le plus cher, c'est la volonté. Ce n'est pas surtout le moyen matériel, mais c'est surtout la volonté. Et je pense que nos autorités sanitaires, politiques et administratives, aujourd'hui, en ont la volonté. Et c'est cette volonté qui est arrivée à bout du virus Ebola. Nous avons ça. Et vraiment, je souhaite que cela soit cultivé et que cela soit entretenu pour aboutir à l'amélioration du plateau technique souhaité.
Alors, l'OMS a longtemps salué le dispositif du Mali. Nous avons eu la confirmation d'un deuxième cas de guérison au Mali. Alors, que pensez-vous du personnel soignant Al-Qaïdi?
Bon, vous m'excusez hein, si je retourne en arrière, parce que mon ami là, je me demande s'il voit même à la télé. Chaque fois qu'il voit à la télé, les gens disent « nous n'avons pas fermé ici à Bamako ». Quand on avait dit qu'il y avait un talibé qui saignait, les gens qu'on a appelés, ils sont venus. Il a fallu que le ministre intervienne pour qu'ils viennent. Ils disent qu'ils n'ont qu'un dispositif. C'est-à-dire, ça, c'est des choses claires. Il ne faut pas aller au-delà. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Moi, je ne dis pas que ça ne s'est pas amélioré. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas eu d'esprit d'anticipation. Mais anticipation veut dire que la formation a été faite. Ce n'est pas quand la maladie a été déclarée qu'on vient former. Ce n'est pas quand la maladie a été déclarée qu'on paye des kits pour protéger les infirmiers. Et je crois que jusqu'à preuve de contraire, il faudrait qu'on continue à former ces infirmiers-là, qu'on continue à les protéger, qu'on continue à les former. Et je crois que c'est du devoir de l'État et de toutes les autorités sanitaires pour que enfin cette maladie, on puisse la vaincre. Voilà. Sinon, ce qu'il est en train de dire, lui-même, il n'a qu'à regarder la télé. Chaque fois, on interroge les gens, il dit « nous n'avons été formés à rien, nous ne connaissons pas ». Vous voyez, donc ça c'est quand même souvent. Des gens qui ont été formés ne peuvent pas venir à la télé pour dire qu'ils n'ont pas été formés. Des gens qui ont bénéficié de kits ne peuvent pas le dire. Dès l'instant où en Guinée il y a eu Ebola, on devrait payer les kits, on devrait former, on devrait s'attendre à ce que la maladie. Et aujourd'hui, je dis la clinique Pasteur. Quand la clinique Pasteur, on ne peut pas diagnostiquer qu'un malade est atteint d'Ebola. Tu vas demander ça dans le CESCOM de mon village? Je vous pose la question vous-même. Ça, c'est très simple.
Je ne suis pas de votre village.
Voilà, donc, tu n'es pas de mon village. Je veux que mon ami y réponde.
Très bien, M. Sidibé. D'abord, je dis que c'est bien avant l'apparition...
Boubacar Sissoko,
c'est bien avant l'apparition du premier cas au Mali que les agents sanitaires de Kenyeba ont été formés par anticipation. Si eux n'ont pas eu la chance d'exprimer leur état d'âme, ils n'ont pas eu la chance de dire à la télé qu'ils ont été formés, au moins que mon collègue reconnaisse.
Tu es au nom de Mali ou de Kenyeba? Non, ici tu es sur le plateau au nom de Mali ou de Kenyeba?
Les gens qui ont été formés, c'est que je peux témoigner.
C'était l'avis des députés sur les sujets brûlants de la semaine. Merci à vous messieurs pour ce débat. Nous sommes malheureusement à la fin de cette émission. C'était le débat du Parlement, animé par moi-même, Famoussa Sidibé, à la mise en onde, il y avait Sedumbo, à la technique, donc à la réalisation, il y avait Ousmane Djadjetouré et Salim Djouara était au VTR, car cette émission est enregistrée et sera diffusée en vidéo sur le voilà, sur Internet. Donc, cette émission planchait sur trois thèmes de la semaine. La libération de Serge Lazarevitch. Nous avions eu à parler également de la 19e édition de l'espace d'interpellation démocratique. Et en dernier point, nous avons évoqué le virus Ebola. Les députés, ils étaient deux. Boubacar Sissoko, élu du RPM à Kenyeba. Et Al-Kaïdi Mohamed Touré, élu à Diré. Je suis Famoussa Sidibé, Ousmane Diadié Touré était à la mise en onde. Nous vous disons à lundi pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halou de Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.